Radio Kapi.
Oh, Kapi. Dix rebelles ADF neutralisés, 13 otages récupérés demain de ces assaillants. C'est le bilan de 2 jours de combat entre cette milice et l'armée. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. 3 candidatures débarquées par la CENI ont été réhabilitées par la Cour d'appel du Kassai oriental. Le député national Crispin Bindoula est notre invité. Il est l'auteur de la motion ayant conduit à la déchéance du ministre de l'économie. Bonjour à tous. Cette édition part de l'Ituri. 10 rebelles des ADF ont été neutralisés par les FRDC mardi au village Kandoï, situé à 11 km de Komanda sur l'axe Mambasa-Kisangani. Selon des sources sécuritaires, c'était après 2 jours de combats entre ce groupe armé et les forces loyalistes. L'armée a également réussi à récupérer 13 otages qui ont été pris par ces rebelles. La société civile demande aux FRDC de maintenir la pression sur ces hommes armés et qui ont intensifié les attaques contre les civils dans les territoires d'Irumu. Martial Kizabiamungu nous fait le point.
C'est depuis le lundi dernier que le FRDC a lancé une offensive contre un groupe de rebelles de ZADF dans la région de Kandoï en dépassant les ponts Ituri. Des sources sécuritaires indiquent que l'ennemi voulait se réorganiser dans cette forêt après avoir été pourchassé par les FRDC au village Chaourimoya le week-end dernier. Pendant 2 jours de combats, les forces loyalistes ont réussi à déloger ces rebelles à Kandoï et sa périphérie, indique le commandant des opérations des FRDC à Komanda. Le général Joseph Mugisa avance un bilan de 10 éléments des ADF neutralisés et plusieurs armes et munitions récupérées aux mains de l'ennemi. Il ajoute que 13 personnes, 9 enfants, 3 mamans et un homme qui étaient pris en otage ont été récupérés par le FRDC. La société civile salue cet exploit de l'armée. Cette structure souhaite que ces opérations soient intensifiées dans d'autres villages où ces rebelles commettent des exactions contre la population. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous vous l'annoncions hier, les membres de la task force qui étaient pris en otage par la milice Codeco ont quitté mardi Bounia pour Goma, au Nord Kivu. Selon Thomas Lubanga, le chef de cette équipe envoyée par le chef de l'État en Ituri pour sensibiliser les groupes armés à déposer les armes, les groupes armés de l'Ituri sont favorables à la paix dans cette province. Cependant, ils déplorent le changement de leurs revendications qui bloque parfois le processus. Il a dit au cours d'un point de presse mardi avant de prendre son vol, Isaac Remoyo nous en dit plus.
Dans son adresse, le coordonnateur de la task force Thomas Lubanga a brossé les calvaires vécus dans les maquis de la Codeco pendant environ 60 jours. Il s'est réjoui des efforts fournis par les FARDC et le gouvernement qui, selon lui, a fait de larges concessions dans le cadre des négociations avec la milice Codeco qui changeait régulièrement ses revendications. Cependant, il confirme que les groupes armés en Ituri manifestent la volonté de déposer les armes pour la pacification de cette province, ce qui correspond à l'objectif du gouvernement et du chef de l'État qui ont tendu la main à ces groupes armés. Et donc, au guide de l'espoir pour la paix dans cette province, Thomas Lubanga.
Les négociations ont été entreprises par la présidence de la République. Sur terrain, ici, beaucoup de concessions ont été faites. Mais sur ces revendications, changer de terme presque chaque matin. Il y a des gens qui portent les armes là où nous avons été, mais le désir de la paix est réel. Je crois que entre nous, il n'y a pas de controverse.
Avant les points de presse, les 4 membres de la task force qui ont été libérés mardi et d'autres relâchés il y a une semaine se sont envolés pour Goma pour un débriefing avec la délégation du gouvernement congolais conduite par le premier ministre Sama Lukonde. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis, toujours en Ituri, notez que le premier ministre Sama Lukonde vient d'arriver à Bounia ce mercredi, accompagné de plusieurs de ses ministres. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, l'objectif de leur visite est d'évaluer l'état de siège en vue de prendre des dispositions nécessaires pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette province et aussi d'étudier des mécanismes pour l'application des projets de développement de 145 territoires de la RDC, dont ceux de la province de l'Ituri, dans ce contexte d'insécurité. Il a dit au cours d'un point de presse à sa descente de l'avion et avant l'étape de l'Ituri, le Premier ministre Sama Lukonde a bouclé ce matin sa visite de 48 heures à Goma. Devant la presse locale, le chef du gouvernement congolais a répondu aux questions des journalistes. C'est sécurité, entre autres sur l'insécurité grandissante actuellement en province. Samalou Kondé a également éclairé la presse par rapport aux revendications du mouvement rebelle du M23. Le condensé avec vous, Gabriel Ouaménia.
Dans sa communication devant la presse, Samalou Kondé a répondu notamment à la question de la levée ou non de l'état de siège au Nord Kivu, telle que formulée par quelques acteurs du Nord Kivu. Samalou Kondé a répondu en ces termes.
Il y a eu peut-être certaines avancées sur le terrain, mais d'un autre côté, il y a un besoin de ressenti au niveau de la population. Et au niveau du ressenti, nous avons reçu des plaintes du point de vue de ces zones opérationnelles par rapport à l'état de siège. Et surtout, ce qui a été déploré, c'est les pertes en vie humaines. Et donc, les populations demande à être de plus en plus sécurisé.
Et par rapport aux revendications présumées du mouvement rebelle du M23, le Premier ministre n'a pas manqué de mots justes. Samalou Kondé.
Sur ces questions de cahiers de charges qui sont mises en avant, nous, nous répondons par un cahier de charges de paix, parce que c'est ça que nous recherchons. Et nous sommes assez, je veux dire, vigilants, parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a beaucoup de sensibilité autour de la question du M23.
Au finish, avant de s'envoler pour Bounia, les Premier ministre a annoncé l'arrivée dans un futur proche d'une mission humanitaire du gouvernement congolais au Nord Kivu pour évaluer et apporter des secours humanitaires aux personnes déplacées de la province. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, lui, est arrivé à Beni aujourd'hui en milieu d'après-midi. Dès son arrivée, Kassim Diane a rencontré le maire de la ville avec qui il a notamment discuté de la situation sécuritaire. Après la rencontre, le commissaire supérieur principal Moutéba Kachalé a salué la collaboration entre la MONUSCO et les autorités congolaises pour assurer la paix dans cette région encore en proie à l'activisme de groupes armés. Écoutez-le au micro de Joël Bofengo.
Nous avons échangé avec lui d'abord sur la situation de la ville de Beni et nous avons parlé aussi du procès des ADF qui se déroule dans la ville. Et nous avons parlé aussi de ce qu'il est venu faire ici, donc s'enquérir, voir ses administrés. Non, en tout cas, nous sommes dans une étroite collaboration avec la MONUSCO et tout va très bien. Donc la MONUSCO, elle le savait très bien, c'est notre partenaire incontournable. Nous sommes en train de travailler très bien avec les chefs de bureau présents et les commandants FBI. Donc tout se passe bien. Pour le moment, la ville, elle est très calme, très calme.
Kassim Diane va rester à Beni jusqu'à demain. Son programme prévoit notamment l'inauguration jeudi d'un projet d'éclairage public financé par la MONUSCO à Mavivi. Réhabilitation hier mardi à Mbujimayi par la cour d'appel du Kasaï oriental de 3 candidatures qui ont été débarquées de la liste provisoire des candidatures recevables au poste de gouverneur et vice-gouverneur de province publié le 2 avril en cours par la commission électorale nationale indépendante. Cependant, le conseiller principal du chef de l'État au collège d'infrastructure et qui avait aussi saisi la cour d'appel a tout simplement été débouté par la cour après la notification de ses arrêts à la CENI. La centrale électorale prévoit de publier la liste définitive le 21 avril prochain, selon le calendrier réaménagé. Des explications avec Esther Dalafina.
La cour d'appel du Kasaï oriental a rendu ses arrêts dans le cadre des contentieux de candidature à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. 4 des 5 candidats débarqués par la CENI à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, 3 vont compétir pour briguer ce poste. Il s'agit de Thierry Mponda, Alidor Beyaboulela ainsi que Francis Mwanzamulomba. Ces candidats, tous cadres de l'UDPS, ont été débarqués de la liste provisoire des candidatures au poste de gouverneur et vice-gouverneur pour conflit d'intérêts. Le secrétariat général de l'UDPS avait sollicité le retrait de leur nom de la liste provisoire, étant donné que le parti s'était déjà prononcé pour un candidat après l'élection primaire. La cour d'appel a cependant rejeté la candidature de David Moukeba, conseiller principal du chef de l'État au collège infrastructure. Lui a traîné le parti en justice ainsi que la CENI. La prochaine étape concerne la notification des arrêts de la cour à la CENI pour la prise en compte des candidatures repêchées dans le cadre des contentieux des candidatures. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Deux semaines après la déchéance du ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba, la confusion continue à persister autour de sa démission. Les proches du ministre déchu continuent à dénoncer les irrégularités qui ont entaché la motion de défiance contre lui et attendent le verdict de la Cour de cassation avant d'envisager ou pas une quelconque démission du ministre. Cependant, les députés motionnaires parlent d'un faux débat et conjuguent Jean-Marie Kalumba au passé, promettant même des poursuites judiciaires pour détournement de 6 millions de dollars destinés à l'achat de chinchards en Namibie. Michel Kifindangoy nous en parle.
En dépit du vote à la majorité absolue des députés pour la déchéance du ministre de l'économie nationale, les proches du ministre déchu Jean-Marie Kalumba persistent que le ministre ne démissionnera pas. Pour les députés Papi Nyango, la motion de défiance contre le ministre a été entachée de faux en écriture. Il n'y aura donc aucune démission du ministre tant que la Cour de cassation déjà saisie n'aurait pas prononcé son verdict. De leur côté, les députés motionnaires évoquent l'article 147 alinéa 2 de la Constitution. Pour Crispin Bindoulé, le ministre n'est pas tenu de déposer sa démission car il est déjà réputé démissionnaire et c'est automatique. Seul le premier ministre est appelé à démissionner si son gouvernement arrivait à tomber, d'après l'alinéa 1er du même article. Pour Crispin Bindoulé, une commission d'enquête parlementaire devra être mise en place pour déterminer la responsabilité de Jean-Marie Kalumba dans le détournement des 6 millions de dollars destinés à l'achat des chinchards à Namibie.
Également dans l'actualité, l'inspection générale des finances note quelques progrès dans la lutte contre la prédation financière enclenchée par le chef de l'État. L'inspecteur général adjoint des finances l'a dit au cours d'une journée d'échange citoyen avec les journalistes organisée hier mardi à l'inspection générale des finances. Selon Victor Batubenga, des mesures efficaces ont été prises contre les exonérations illégales, la compensation et bien d'autres opérations illégales encore. Et parmi les solutions, il y a lieu de citer la rationalisation des exonérations et la contre-vérification fiscale. Sur terrain, quelques résultats escomptés sont enregistrés. Victor Batubenga cite quelques-uns au micro de Jean-Marc Matouki.
De 2017 à 2020, étant donné qu'on avait enregistré une contre-performance importante au niveau de la mobilisation des recettes en avril 2020, l'examen des causes de cette contre-performance avait révélé que les exonérations illégales pesaient pour beaucoup dans cette contre-performance. Et en analysant ces exonérations, nous avions constaté qu'il y avait beaucoup d'exonérations illégales. De 2007 à août 2020, le manque à gagner total s'était chiffré à 5,4 milliards de dollars. C'est pratiquement le budget d'une année du gouvernement central. À cette occasion-là, l'inspection générale des finances avait recommandé la rationalisation des exonérations. Ce fut chose faite. Nous avons constaté un phénomène irrégulier, illégal. C'est ce qu'on avait appelé les compensations. À l'époque, le ministre des Finances signait des lettres de compensation. À l'époque, nous avions pu chiffrer à 980 millions de dollars de lettres de compensation qui n'étaient pas encore utilisées. Ça veut dire que si on n'avait pas interdit ces compensations, dans les années qui devaient suivre 2020, on devait avoir 980 millions de dollars de pertes. On a parlé de la contre-vérification fiscale. Nous avons effectué certaines missions de contre-vérification. Les résultats partiels, en tout cas au deuxième semestre, on a recouvré 13 millions de dollars sur les missions que l'inspection générale des finances a effectuées.
Actualité internationale. 10 personnes, dont 4 Français, 1 Belge et 5 Égyptiens, ont été tuées ce mercredi dans un accident de bus à Assouan, dans le sud touristique de l'Égypte. En outre, 14 autres personnes ont été blessées, notamment 8 Français et 6 Belges, et se trouvent dans un état stable après avoir été hospitalisés pour des fractures et des blessures superficielles, précise un communiqué. L'Ukraine n'ouvrira aucun couloir humanitaire ce mercredi 13 avril, l'a déclaré un responsable du gouvernement en accusant les Russes de violer les normes du droit international, ce qui rend la situation dangereuse.
L'invité.
Après deux semaines de la déchéance du ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba, continue-t-il à exercer ses fonctions de ministre ou pas? Et que dit la constitution de la procédure à suivre pour sa démission? Nous recevons dans ce journal le porteur de la motion de défiance, Crispin Mbindula. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Crispin Mbindula, bonjour.
Bonjour.
Deux semaines après la déchéance du ministre de l'économie à l'Assemblée nationale, jusqu'à ce jour, toujours pas sa démission, qu'en est-il concrètement?
Voici ce qui dit la loi. Si vous prenez la Constitution à son article 147, alinéa 2, on dit ceci. Lorsqu'une motion de défiance contre un membre du gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. Ici, il n'est pas question de déposer une démission auprès du Premier ministre ou auprès du chef de l'État. Donc, le ministre de l'économie nationale est démissionnaire. On ne peut plus l'appeler ministre, il est ex-ministre. Ici, il ne s'agit pas d'une motion de censure. C'est quand on déchoit le Premier ministre et son gouvernement. C'est en ce moment-là que le Premier ministre dépose une lettre de démission auprès du chef de l'État. Mais ici, c'est un membre du gouvernement. Il est réputé démissionnaire. Normalement, le Premier ministre doit désigner un autre ministre qui assume l'intérim en attendant le remaniement ministériel.
Est-ce que depuis sa déchéance, il y a déjà deux conseils des ministres qui ont eu lieu. Est-ce que vous avez des informations qu'il n'a pas réellement pris part à ces conseils des ministres?
À ce qui concerne le conseil des ministres, moi-même j'avais lu le PV du conseil des ministres qui est rendu public. Bon, je n'avais pas vu nulle part où on parlait de son intégration. Mais nous retenons que le gouvernement a déjà pris acte et à travers le ministre de la Communication, qui est le porte-parole du gouvernement, il avait dit que le gouvernement a pris acte et nous nous arrêtons là. S'il participe au Conseil des ministres, ce sera en violation. S'il continue à engager le ministère de l'économie nationale, ça sera, je sens que sinon l'Assemblée va introduire une action en justice contre ce ministre-là, parce qu'il n'est plus ministre, c'est comme un monsieur qui est dans la rue, un citoyen congolais qui s'autoproclame ministre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'arrêter, parce que ça sera l'abus de pouvoir. Donc, le gouvernement est obligé de prendre acte parce que la motion était votée en Assemblée nationale. Et vous savez que le gouvernement est politiquement responsable devant l'Assemblée nationale.
En même temps, les collaborateurs du ministre estiment qu'il y a eu vice de procédure. La motion était entachée de faux et il attend que la Cour de cassation statue pour prendre une décision finale de quitter le gouvernement ou pas.
Vous savez, quelqu'un qui se noie, il s'accroche même sur un serpent. Et le membre du cabinet du ministre de l'économie, c'est pas facile d'aller au chômage. Il doit chercher à se justifier, à aller. Or, la question, elle est très, très profonde. Vous savez que dans la motion, nous avions soulevé le problème des 6 millions de dollars qu'on avait donné au ministre pour aller acheter des achats. Nous réclamons une commission d'enquête et à l'issue de cette commission, la justice doit être saisie pour que on puisse arrêter ceux qui ont détourné cet argent ou ceux qui ont mal utilisé cet argent des contribuables congolais. Donc, le dossier n'est pas terminé au niveau de l'Assemblée. Nous continuons avec maintenant encore l'enquête pour établir les responsabilités. Donc, lorsqu'on destitue quelqu'un pour incompétence, c'est-à-dire son incompétence est là, était en train de pénaliser la population congolaise, les contribuables congolais. Donc on ne va pas s'arrêter là, juste à sans destitution, mais on va continuer jusqu'à ce qu'on l'amène à prison.
Crispin Mbindula, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.